Nicolas Mongin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur patrimonial chez Lazard Frères Gestion. On va parler avec vous de fiscalité patrimoniale, notamment pour cette année 2016, sans qu'il y ait de révolution dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'on peut dire, notamment pour commencer, sur l'impôt sur le revenu?
Alors, l'impôt sur le revenu, pas de modification particulière par rapport à l'année précédente. On a simplement inscrit dans la loi de finances. Donc l'obligation de télédéclarer ces déclarations d'impôt sur le revenu dans l'optique justement de faciliter la mise en place du prélèvement à la source. Donc ça c'est une modification entre guillemets anecdotique, mais bon qui va de fil en aiguille s'imposer à tous les contribuables. Non, la modification essentielle, à mon sens, concerne les réductions Madelin, qui consistent en fait à bénéficier d'une réduction d'impôt en contrepartie de la souscription au capital d'une PME, où là, les conditions ont été très sensiblement durcies, puisque désormais, alors il y a un certain nombre de conditions, mais désormais, il n'est plus possible d'investir dans une PME de plus de 7 ans ou dans une PME dans laquelle on est déjà actionnaire. Voilà. Et il se trouve que ces conditions sont les mêmes que pour la réduction qui s'applique pour l'ISF. Et donc concrètement, eh bien, un chef d'entreprise ne pourra plus, enfin ne peut plus désormais, depuis le 1er janvier 2016, ne peut plus investir dans sa propre société.
Voilà, c'est pas le moindre des paradoxes au moment où on dit qu'il faut aider les PME ou les entreprises de taille intermédiaire,
Voilà.
effectivement.
On durcit effectivement les conditions et donc ça risque effectivement de poser quelques problèmes pour trouver des cibles qui soient viables.
Alors, de l'autre côté du spectre, on a effectivement l'impôt sur la fortune, donc qui est constamment, on va dire, modifié, amendé, qui évolue. Comment il évolue sur l'année, enfin pour 2016, comment il va évoluer?
Alors, 2016, il n'y a pas de modification majeure, donc si ce n'est ce que je vous disais sur les réductions d'ISF. En revanche, il y a eu récemment deux jurisprudences importantes. Une jurisprudence d'octobre 2015 de la Cour de cassation qui s'est prononcée en fait sur le périmètre de l'exonération des sociétés holding en précisant donc qu'il fallait avoir une analyse stricte du texte. Et désormais, donc l'administration n'a pas en fait à juger du caractère nécessaire ou pas pour l'activité des biens qui sont inscrits à l'actif des filiales et des sous-filiales de la société holding. Donc ça, c'est un élément important qui va permettre de sécuriser un certain nombre de situations. Et une deuxième jurisprudence importante également, qui là est plus récente puisqu'elle date de janvier 2016, et qui concerne l'abattement de 75% dont peuvent bénéficier certains mandataires sociaux et salariés qui investissent dans leur entreprise. Puisque il y avait comment dire, une incertitude concernant la condition liée à l'activité principale. Et cette incertitude a été levée puisque désormais la notion d'activité principale s'entend du temps passé au niveau de son activité et non pas au niveau de la rémunération. Enfin, disons que la condition de rémunération est une condition subsidiaire.
Voilà, donc des jurisprudences qui précisent les choses et
Exactement.
qui peuvent clarifier des fois des situations un peu compliquées.
Voilà.
Du côté du PEA-PME, donc on a beaucoup parlé de ce PEA-PME-ETI. On en attend encore des résultats en termes de volume, hein, bien entendu, mais est-ce qu'il y a eu des modifications
Alors oui, il y a eu deux modifications. La première modification, donc la loi de finances rectificative pour 2015, concerne en fait la possibilité pour les titulaires de PEA-PME de réaliser des cessions de parts d'OPC monétaires. Et c'est important parce que ce ne sont que des OPC monétaires qui sont visés. Et donc, dans le cadre de cessions de parts d'OPC monétaires, eh bien, le contribuable peut demander à bénéficier d'un report d'imposition pendant 5 ans. Et ce report pourrait se transformer en exonération d'impôt sur le revenu au terme de ces 5 ans. Alors il y a un certain nombre de conditions. La première condition notamment, c'est de réinvestir dans le mois qui suit la cession tout ou partie du produit de la cession dans le PEA-PME, en sachant que bien entendu, si c'est un réinvestissement partiel, le report d'imposition et l'exonération qui pourrait s'en suivre ne serait que partiel. Voilà. Et ensuite, il ne faut pas faire de rachat sur son PEA pendant les 5 années qui suivent.
À côté de ce PAPME, on parle aussi de plus en plus de crowdfunding. Là, on a vu sur le sujet perte en capital possible,
Oui.
puisque là aussi, on est sur des investissements à risque.
Exactement.
Là, il y a des modifications.
Alors, une petite modification qui va permettre, en fait, eh bien, justement, de répercuter cette perte en capital, d'imputer cette perte en capital sur des intérêts qui pourraient être perçus par ailleurs dans le cadre, justement, du crowdfunding.
Alors, vous parliez tout à l'heure de jurisprudence. Il y en a une dont on a beaucoup parlé récemment, c'est la réponse Baquet dans le domaine de
Oui.
l'assurance vie. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion désormais?
Alors, donc pour replacer les choses dans leur contexte, la réponse Baquet, c'est une réponse ministérielle, donc qui a été réintégrée au BOFIP, qui vise à tenir compte dans l'actif successoral de la moitié de la valeur de rachat des contrats non dénoués qui ont été souscrits à l'aide de deniers communs. Donc concrètement, ça conduisait en fait, eh bien, à soumettre la moitié de ces contrats d'assurance vie au droit de succession lorsque il y avait des héritiers. Et donc Michel Sapin, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, a précisé que cette réponse ministérielle serait supprimée. Donc ça a été précisé par voie de communiqué de presse. Donc pour l'instant, en droit, ça n'a pas de valeur particulière. Donc on attend une réponse ministérielle pour pouvoir marquer dans le marbre, enfin graver dans le marbre justement cette suppression. Et donc concrètement, eh bien, ce qui va se passer, c'est que du point de vue fiscal, ces contrats ne seront plus pris en compte dans l'actif successoral, ce qui devrait donc réduire la note fiscale pour les héritiers.
Le mot de la fin, justement, sur cette fiscalité patrimoniale, on voit qu'elle évolue par petites touches, en tout cas pour cette année 2016. Le réflexe qu'on doit avoir sur cette fiscalité patrimoniale, on doit étudier tous les différents outils, effectivement, l'investissement qu'on va faire à long terme, sa situation personnelle. Vous parliez de holding tout à l'heure, on doit vraiment faire une analyse globale.
Ah oui, impérativement. Ça, c'est impératif, que ce soit au niveau de l'impôt sur le revenu, au niveau de l'ISF ou plus si on se projette sur le plus long terme au niveau l'impôt sur les successions. Effectivement, il faut avoir une vision globale des choses, en sachant que certains dispositifs permettent d'être dans la situation fiscale la plus favorable, aussi bien au regard de l'impôt sur le revenu que de l'ISF et des droits de succession. Et je pense notamment au contrat d'assurance vie, puisque le principe de la capitalisation permet de réaliser une gestion d'actifs avec le moins de frottement fiscal possible et permet également d'optimiser ou en tout cas de réduire sa note, sa facture en termes d'ISF grâce au mécanisme du plafonnement de l'ISF. Et enfin, en termes de transmission, c'est un régime d'assurance vie qui permet de maximiser le montant qui sera transmis en minimisant justement les droits y afférents.
Voilà, on voit en tout cas que ça passionne toujours autant les Français, donc ils sont encore fixés sur cette assurance vie. Merci Nicolas Mongin d'avoir fait le point avec nous.
Merci.